plus d'intervenants possible. Alors, sans trop trafiquer d'hélium environnemental quand même, on commence par une revue de l'actualité environnementale où on interroge une foule de gens passionnants. On va parler aussi du super plan de M. Charest, le premier ministre, pour un développement durable au Québec. J'ai peur. Quelqu'un fait quelque chose. On parle de milieu humide, de dépotoir, d'eau et de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. En troisième bloc d'émission, donc la dernière demi-heure de cette belle heure et demie qui s'en vient, le dossier de la semaine, responsabilité sociale des entreprises. À cet effet, on reçoit des étudiants de l'Institut des sciences de l'environnement et plus particulièrement de la chaire sociale développement durable, anciennement la chaire économie humaniste, pour parler de responsabilité sociale des entreprises, donc, et de développement durable. Et on termine par nos classiques coup de cœur, coup de masse et au calendrier cette semaine. Sofiane Legendre au micro pour vous divertir, mais surtout nous l'espérons vous informer en compagnie de l'équipe magique cette semaine. Et j'ai nommé Patrick Bonin et Nicolas Mainville. Messieurs, vous allez bien?
Oui, très bien.
Très bien, pas trop longtemps, on n'a pas beaucoup de temps, on est dans la course. Alors cette semaine, la voix que l'on n'entend jamais, qui est Étienne Côté-Paluc à la régie. Bonjour Étienne, ça va bien? Excellent. Donc, c'est aussi lui qui nous fait le site Internet que vous pouvez toujours visiter en tout temps, où est-ce que vous pouvez écouter les émissions archivées et sur lequel vous pouvez vous inscrire pour une cyberlette. Et j'ai dit le site Delirium qui est au www.radiodelirium.net. Alors, donc, une grosse semaine cette semaine. Comme je vous le disais, on fait notre part pour le défi des 1000 de CIBL. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on embarque dans ce jeu, bien que ça va complètement dans le sens contraire de nos valeurs et de... Parce que nous, on pense qu'il faut prendre le temps avec les différents intervenants, parce que l'environnement, des fois, c'est compliqué, ça prend du temps, faut expliquer. Sauf qu'aujourd'hui, c'est de bonne grâce qu'on joue le jeu, bien entendu. Grosse semaine en environnement, encore une fois, il y en a des choses qui se passent au Québec en environnement. On sent que c'est une période charnière pour le Québec. Et d'ailleurs, M. Charest est tombé sur le buzzword, s'il en est un en environnement, le développement durable. Et j'ai nommé le développement durable. Mais qu'en est-il? Patrick Bonin, Charest, de belles espérances.
Charest, c'était son congrès du PLQ, on se souvient, en fin de semaine. Il y avait énormément de manifestants, encore une fois, pour les 2500 membres qui étaient à l'intérieur du Palais des congrès. À ce congrès, on n'a pas parlé vraiment de réingénierie, de PPP, de partenariat public-privé. On dirait que c'est pas très vendeur comme idée. On s'est viré, justement, une tendance vers un virage vert pour parler de développement durable. En fait, récupérer ce terme à première vue, il y a un plan de développement durable qui va sortir demain de la part de M. Mulcair, le ministre de l'Environnement du Québec. Ce sur quoi, dans le fond, on accroche un petit peu, c'est justement que tout le monde se targue de faire du développement durable de nos jours. Domtar, la compagnie forestière, Shell fait du développement durable. Hydro-Québec, qui veut mettre du thermique partout, fait du développement durable. Eh bien, notre gouvernement va faire du développement durable, n'est-ce pas? Magnifique. On a bien hâte de voir, justement, qu'est-ce que ça va donner. C'est censé être un plan... En fait, qui va propulser le Québec, comme dirait M. Mulcair, à l'avant-scène des États d'Amérique du Nord. On a bien hâte de voir c'est quoi la consultation publique. Il va y avoir une consultation publique là-dessus en janvier, fort probablement.
Ben, en fait, c'était une partie de la chose qui était très problématique parce que M. Charest, dans son plan, en fait, dans le document de travail qu'il a présenté cette fin de semaine, qui s'appelait « L'avenir, virgule, résolument ». Oh, c'est inspirant, mieux vivre au Québec. Donc, dans ce document de travail-là, fait beaucoup la promotion de l'énergie comme un des piliers du développement durable, mais il parle d'énergie hydroélectrique et il parle pas des filières alternatives. En ce sens-là, il y a tout lieu de se demander, est-ce qu'on a vraiment besoin de tenir une commission ou monsieur a déjà son plan?
C'est effectivement extrêmement problématique puisque, encore une fois, monsieur Charest et monsieur Mulcair ont réannoncé l'intention, en fait, c'est monsieur Hamad qui ont réaffirmé l'intention d'investir 3,5 millions à 4 milliards par année pour les 20 prochaines années dans l'hydroélectrique. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Il est même allé vendre l'idée en Nouvelle-Angleterre la semaine passée ou la deux semaines. Donc, évidemment, on se questionne à savoir quel est le but de cette commission parlementaire qui a tardé à venir et comment que la prise de position dans cette commission parlementaire va avoir un effet si déjà le ministère des Ressources naturelles et le ministre Charest, le premier ministre, nous dit on s'en va dans le développement durable et on fonce dans l'hydroélectrique encore plus et on investit massivement. Donc, évidemment, on se questionne solidement sur la pertinence de cette commission parlementaire.
Mais on sait que pour ce qui est de la bourde de Sam Hamad, ministre des Ressources naturelles, quel mot horrible, ressources naturelles, en est pas à sa première bourde. Donc, on va y accorder le crédit de peut-être l'erreur.
Et M. Hamad a déclaré cette semaine, ou plutôt la semaine passée, que vous savez, le thermique au Québec, on n'en fera plus, c'est officiel, le surroi, on a décidé de ne plus le faire, c'était rendu beaucoup trop chaud politiquement parlant. Mais ce qui est assez aberrant dans ce que M. Hamad a dit, c'est que le surroi, dans le fond, puis les gaz à effet de serre, que ça l'aurait fait, ça n'aurait pas été de la pollution, ça. Comme si, justement, le réchauffement planétaire qui est causé par les gaz à effet de serre, ce n'est pas de la pollution. Donc, c'est vraiment inquiétant de voir ça. Je veux juste revenir un petit peu sur ce fameux plan de développement durable qui va sortir demain, parce que c'est vraiment important. Ça va être les grandes lignes, l'orientation du gouvernement pour les prochaines années. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais on espère que ça va avoir de l'allure. Malheureusement, revenez avec nous la semaine prochaine. On va se prononcer là-dessus définitivement. Et ce qui est important, c'est d'avoir une loi avec des dents. Pas juste des choses abstraites, non concrètes, pas d'argent. Juste pour vous rappeler un peu, le développement durable, il y a trois axes là-dedans. L'environnement, le social et l'économique. À la base, on peut se dire pourquoi l'économique est pas dans le social, ce qui est déjà une grosse question. Et c'est une récupération politique souvent. Et là, le gouvernement qui essaie de nous faire à croire qu'il veut faire du développement durable, je vais juste vous rappeler quelques faits du gouvernement libéral au Québec, ce qu'il a fait depuis son entrée. Premièrement, il a coupé de 15 millions le ministère de l'Environnement. C'est un ministère qui a 168 millions, c'est 0,36% du budget du gouvernement. Lorsque vous voulez faire du développement durable et vous avez 0,36% du budget en environnement, il y a un axe, un de ces trois axes-là, social, économique et environnemental, qui est trop faible. Également, on parle de, vous voyez cette semaine, l'augmentation des frais de transport en commun, sous-financés par le gouvernement qui n'a pas changé. L'idée de vouloir faire la centrale thermique du surroi, on nous a passé une centrale de cogénération à Bécancour. C'est la même chose, c'est centrale thermique au gaz naturel, ça limite les gaz à effet de serre. On veut vendre l'eau en vrac, on fait pas l'étiquetage des OGM, on veut ramener les méga porcheries. Si ça, c'est du développement durable, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va y avoir dans son plan demain, parce que pour l'instant, c'est très, très inquiétant la récupération politique qu'on fait de ce terre.
Mais ce qui est dangereux aussi, c'est qu'on risque de le vider de son sens. Si vous voulez, on prend tout de suite l'occasion pour en discuter avec M. Guy Lessard, qui est président du RNCREQ, qui est le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, bien entendu, pour lui demander un peu son avis, si vous le permettez, sur ces velléités-là du gouvernement Charest de parler de développement durable et d'hydroélectricité, excusez-moi, dans la même phrase. Monsieur Lessard, vous allez bien?
Oui, vous-même.
Ça va très bien, merci. Donc, d'après vous, cette intention du gouvernement Charest qui fait la promotion du développement durable et de l'hydroélectricité, qu'en pensez-vous?
Ben, écoutez, je pense qu'on ne porte peut-être pas tout le monde de la même place pour discuter de la question. J'ai été, comme beaucoup de gens, surpris du résultat du discours de Monsieur Charest en fin de clôture du Congrès. Il est parti dans son discours avec deux thèmes majeurs, soit celui de propulser le Québec parmi les gouvernements les plus avant-gardistes en prenant le virage du développement durable. Alors, vous comprendrez que c'est une douce musique à l'oreille des environnementalistes. Mais dans son deuxième thème, de faire du développement énergétique un pôle majeur de la stratégie de croissance économique du Québec, ben là, on a plongé directement dans le débat social qui est en cours depuis deux mois, là, suite au surroi. Et évidemment, les questions qui n'ont pas encore été résolues dans ce débat, ben, ont fait surface. Moi, je vous dirais que demain, justement, M. Mulcair va déposer le plan de développement durable que le gouvernement du Québec veut proposer aux Québécois. Je pense qu'il faut s'asseoir, qu'il faut le regarder, qu'il faut l'étudier à tête froide, comme on dit, et en tirer le meilleur parti possible, et ça va devenir l'instrument qui va être là en toile de fond pour le débat qui va suivre au cours des prochains mois.
Mais d'après vous, Monsieur Lessard, donc depuis le début de son entrée en fonction, Monsieur Charest semble-t-il s'inspirer des principes et valeurs du développement durable pour le guider dans ses choix politiques?
Ben, je pense qu'à l'intérieur du gouvernement, il y a une volonté, il y a des gens qui ont une volonté ferme de faire ce virage vers le développement durable. Il y a eu quand même des décisions qui ont été prises lorsque le Parti libéral a construit sa plateforme électorale. On y a fait référence à peu près dans tous les documents. Lors des consultations qui ont été faites en région puis partout au Québec sur le projet de loi 34 là, sur la régionalisation, on a accepté d'intégrer le développement durable dans la mission des conférences régionales des élus. Et lors du Forum des générations, les participants ont accepté que le développement durable soit un des 9 axes de développement pour assurer l'équité intergénérationnelle. Alors, voyez-vous, il faut quand même regarder des deux côtés de la médaille sans baisser les bras, parce qu'il y a sûrement un gros combat à faire pour que demain matin, le ministère du Transport, que le MAPAC intègre véritablement le concept de développement durable dans ses décisions. Ça, je suis d'accord avec vous autres.
Mais merci beaucoup, Monsieur Lessard, pour ce commentaire. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous aussi.
Donc, on se souvient qu'on vient d'entendre Monsieur Guy Lessard du Regroupement national du Conseil régional de des conseils régionaux de l'environnement du Québec. On s'imagine que, bon, les discours sur le développement durable sont bien intéressants. Faudrait voir si on est capable de s'entendre sur une définition de ce que c'est que ce fameux développement durable. Parce que si on écoutait Charest, qu'il dit à chaque deux mots depuis cette fin de semaine, tout irait bien au Québec. Et j'en doute, permettez-moi de douter. Environnemental, une émission spéciale parce qu'on participe au défi des 1000 invités à CIBL. En quoi? Une semaine? Même pas. Complètement débile. Vous êtes complètement débile, mais c'est une radio géniale pour tous ceux qui voudraient devenir membres et ainsi faire partie de cette belle communauté autour de la Radio Libre de Montréal. Je vous rappelle que vous pouvez le faire en contactant directement CIBL. Le numéro de téléphone est le 526-2581. Vous écoutez Delirium Environnemental, ça nous fait plaisir de faire la promotion de CIBL, mais on fait aussi la promotion de l'état pitoyable de la planète. Et cette fin de semaine, un événement, ou en début de semaine, un événement, on pensait que... Non, on pensait pas que c'était fini, on sait clair que c'est pas fini. Un déversement de pétrole ici sur les côtes canadiennes.
Ben oui, un événement non négligeable puisque en fait on parle du plus grand déversement de pétrole de l'histoire canadienne, hein, quand même.
Non.
Puis
ah oui.
On en a en fait fait
très peu. Ah, parce que
Vasquez,
c'est en Alaska et c'était pas ici donc.
Exxon Valdez, oui, que tu parles en Alaska. Non, c'est en fait c'est au large de Terre-Neuve. Vous savez, on a deux superbes plateformes pétrolières au large de Terre-Neuve et puis c'est la plateforme de Terra Nova qui a déversé tout bon, joyeusement comme ça, 170 000 litres de pétrole dans l'océan Atlantique. Et puis cette nappe de pétrole qui est maintenant à 12 km au large de cette plateforme, eh bien, elle est très difficile à contenir puisqu'il y a des immenses vagues. Et puis, on a un gros problème avec la récupération de ce pétrole-là.
Oh, oh, on me dit à l'oreille ici que c'est rendu à 10 km de la côte. Ça se rapproche, ça se rapproche.
Non, en fait, c'est à 12 km de la plateforme et c'est à 350 km au sud-est de Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Donc, c'est loin des côtes relativement. Mais évidemment, c'est problématique pour l'environnement et toute la faune qui est impliquée. En plus, qu'on parle des grands bancs de poissons de Terre-Neuve. Donc, une problématique majeure puisque, comme je disais, on n'est pas capable de récupérer ce pétrole-là. La vague est houleuse dans ce coin-là en ce moment. Et puis, on dit que c'est 25% du pétrole seulement qui sera récupéré ou qu'on sera capable de récupérer. Donc, faites le calcul rapide. 170 000 litres de pétrole, seulement 25% de ça qui va être récupéré. Juste pour mentionner, la plateforme Terra Nova, elle appartient à 33%, 34% à Petro-Canada. Hein, vous savez que Petro-Canada a été vendu dernièrement. Et puis 22% à ExxonMobil et 15% à Norsk Hydro-Canada. Donc, on peut se questionner sur qu'est-ce qui va se passer avec cette superbe natte de pétrole.
Bien, grandement, on pourrait peut-être aussi s'inquiéter à savoir est-ce que le navire qui a eu un problème avait une double coque? Ça fait longtemps qu'on parle des doubles coques. Avait-il une double coque?
Ben, en fait, ça, c'est pas un navire, mais c'est une plateforme.
Ah,
donc,
une plateforme
c'est important de clarifier ça.
Il n'y avait pas de double coque.
Évidemment. Puis, en fait, on parle seulement d'un ennui mécanique sur la plateforme. Vous savez, il y a un dispositif qui sépare l'eau du pétrole. Et puis, ce dispositif-là n'a juste pas marché pendant une journée. Donc, on a libéré directement le pétrole de la nappe pétrolière jusque dans l'eau.
Merci.
Bravo.
Beaucoup pour cette nouvelle un peu décourageante. On s'imagine que ça va attaquer beaucoup la biodiversité de ce coin-là et les poissons. Parlant poissons, si vous voulez bien, on va aller parler avec André Bellil, qui est président de la QLPA. La QLPA, qui est l'Association québécoise pour la lutte contre la pollution atmosphérique, mais qui est également président du comité de restauration de la rivière et de chemin. Et c'est avec ce chapeau-là qu'on va lui parler. Monsieur Bellil, bonjour, vous allez bien?
Oui, ça va bien, et vous?
Ça va très bien, merci. Donc, pour faire contrepoids à la mauvaise nouvelle que Nicolas Mainville vient de nous annoncer, vous, aujourd'hui, vous avez une bonne nouvelle pour nous.
Ben oui, on est très heureux d'annoncer qu'après 200 ans d'absence, le saumon est revenu dans Rivière-Etchemin. Et c'est grâce là au travail de plein de gens qui, bon, premièrement du comité de restauration de la Rivière-Etchemin, et aussi tous les gens qui nous ont appuyés, le mouvement des jardins, plein de corporations. Et c'est vraiment une première. À notre connaissance, il semble qu'on n'ait jamais vu ça, là, de ramener une espèce après 200 ans.
Et puis, pour nos auditeurs de Montréal, c'est où exactement la rivière Etchemin?
Ben, la rivière Etchemin aboutit dans le Saint-Laurent, à la hauteur de la ville de Lévis, anciennement Saint-Romuald, là, qui était annexé à Lévis,
mm-hmm.
Hors des montagnes, près du Maine, si on veut, là, en allant vers le sud à partir de Québec. Alors, c'est une rivière qui a 125 kilomètres, qui commence dans un milieu montagneux et boisé, qui traverse la région agricole la plus densément développée en termes de production animale. Au kilomètre carré, c'est là où il y a le plus de production porcine et bovine, et aboutit finalement dans une grande ville, Lévis, au pied d'une raffinerie ultramar. Donc, on avait tout contre nous au départ. Des experts disaient que jamais ça marcherait. Ben voilà, nous, on n'a pas cru qu'il fallait baisser les bras. On a dit au contraire, on va essayer, puis peut-être ça pourrait marcher. Puis là, ben, on voit que ça marche.
Bon, bon, on est bien heureux. On s'imagine que c'est un projet ambitieux, vu la description que vous nous faites de cette rivière-là et de tout ce qui entoure le pourtour de cette rivière-là. Est-ce que ces poissons-là vont être potables? Parce que vous me parlez que ça traverse des zones agricoles, ça passe à côté d'une raffinerie.
Oui, ben c'est ça. Nous, ça fait quand même 11 ans qu'on travaille. On a vraiment vu une très nette amélioration de la qualité de l'eau et aussi des habitats et de la rivière, si on veut, dans tous ces aspects. Alors oui, ces poissons-là sont très bons. D'ailleurs, on va à la pêche, à la truite, à la chigaille, à la corégone depuis des années, et on a de super belles pêches qu'on fait, et ça démontre que quand on donne une chance à la nature, ben, elle manque pas son coup, généralement.
Mais je trouve que c'est une nouvelle qui est bien encourageante. Il y a des nouvelles qui le sont un peu moins, et je vous demanderais, M. Bellil, de remettre votre chapeau de président de la QLPA et de me donner votre avis sur les velléités du ministre Charest de faire du développement durable au Québec.
Ben, écoutez, on doit encourager là, la volonté de développer, si on veut, ou de mettre en place des mesures qui nous permettent d'atteindre le développement durable. Maintenant, c'est sûr que le développement durable dans le domaine de l'énergie, ça exclut tout d'abord le thermique. Il faut vraiment, pour parler de développement durable en énergie, il faut vraiment se tourner vers les énergies vertes, vers l'efficacité énergétique, comme le recommandait la commission Brundtland. Maintenant, il ne faut pas que ça demeure des paroles. Il faut vraiment que ce soit des actes concrets, mesurables et avec un échéancier pour que ça soit visible.
Bien, M. André Bellil, je vous remercie beaucoup.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Bonne journée.
Bonjour.
Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui assèche les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain. Mais l'Occident s'en lave encore les mains, alors que toutes les 8 secondes se génèrent des profits immondes chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui, la source est cotée en bourse et on se calisse bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable, un signe de pièce au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça n'est que c'est ça le du problème. Marchandise à que tu qu'on privatise et gouvernement complice qui improvise. À Montréal, dans les souterrains, ils pompent l'eau qui nous appartient. Paye des pinottes pour le produit et comme ils sont le monopole, font plus de profit que les compagnies de pétrole. Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation. Et on nous met devant les faits accomplis. Ils jouent la terre au Monopoly, quand ils se sont appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, peut-être qu'ils en auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le problème. Hey! dont il ne restera que 8 secondes avant la fin de ce monde. On repensera au genre humain qui, à cause de la faute du gain, aura amené la planète au bord du ravin. Quand il ne restera que 8 secondes. Mon grand pédo est mis à sac par des salauds qui soient de la vie assis dans leur tour à bureau. Dans ce Québec de forêt non bleue, ces richesses doivent devenir des enjeux. Portons les fesses des décideurs et devenons des précurseurs citoyens. L'avenir commence à cette heure.
C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vient d'entendre les Cowboys Fringants. C'est le nouvel album qui vient de sortir lundi. J'aimerais vous dire merci, les Cowboys Fringants, parce que vous avez ramené de plein fouet la musique politique au Québec, la musique engagée. OK, bon, tous les autres artistes qui en font aussi, c'est vrai, mais je trouve que les Cowboys Fringants, ils rentrent dans le tâche. Fait que, tu sais, cette chanson-là, 8 secondes, c'est on ne peut plus clair et on ne peut plus triste d'ailleurs. Donc, merci beaucoup, les Cowboys Fringants. Vous écoutez toujours Delirium Environnemental, le magazine d'information en environnement. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir les nouvelles desquelles on vous parle, toujours sur notre site Internet au www.radiodelirium.net. Cette semaine, une émission particulière, c'est le défi des 1000, donc on parle au plus de monde possible. On continue donc la revue de l'actualité, revue de presse pour maintenant. La semaine passée se tenait un débat à l'Assemblée nationale. D'abord, ça me rassure qu'il y a des débats encore au Québec. Hein? Ça va pas juste dans une direction. Tout à droite, excusez-moi. Donc, un débat se tenait à l'Assemblée nationale sur la question des OGM. Patrick Bonin, t'as suivi la question un petit peu et tu l'as même écouté sur Internet. Qu'est-ce que c'est?
Écoutez et regardez, si jamais vous avez l'intention, vous pouvez aller voir en tout temps tout ce qui se passe en termes de débat sur au Parlement, justement. C'est disponible sur Internet. De là à dire que c'est un débat, je pourrais plutôt le qualifier de monologue de sourd, parce que vous avez déjà vu un peu ce qui se passe avec nos députés. C'est un petit peu triste. Mais il y avait quand même quelque chose d'intéressant qui a été amené par M. Maxime Arsenault, qui est député péquiste des Îles-de-la-Madeleine. Et ce qu'il amenait, c'était une motion. Vous avez entendu parler de l'étiquetage obligatoire des OGM, que 75% des Québécois le veulent. Eh bien, lui, il s'est dit, suite à la commission parlementaire sur l'agriculture, pêcherie et alimentation qu'on a eue en février dernier, il y avait 26 recommandations, c'est ce gouvernement libéral. Parmi ces recommandations-là, formellement, on voulait avoir l'étiquetage obligatoire des OGM. Le gouvernement libéral n'a rien fait. Donc, le PQ a mis sur la table une motion. Je vous la lis rapidement. En fait, ce que ça demandait, c'est que le gouvernement libéral de présenter dans les plus brefs délais une politique concernant l'étiquetage obligatoire des aliments contenant des organismes génétiquement modifiés. Ça également avec une aide pour les agriculteurs. Immédiatement, la motion, le gouvernement libéral n'embarque pas dedans, veut rajouter, en fait, il y a un amendement qui a été rajouté par Mme Monique Françoise Gauthier, pardon, qui est la ministre de l'Agriculture. L'amendement, c'est justement de dire, on veut l'étiquetage, mais en harmonie avec les partenaires canadiens. Ce que ça veut dire, je vous traduis ça, ça veut dire que le Québec va pas de l'avant pour l'étiquetage si nos petits amis du Canada viennent pas avec nous. Mais on sait très bien que la Saskatchewan, que l'Alberta, que l'Ontario et le Nouveau-Brunswick ont déjà répondu à Greenpeace disant qu'ils n'étaient pas intéressés. Donc, le gouvernement libéral dit simplement « Je ne veux pas de l'étiquetage des OGM tout de suite et je ne le ferai pas. » Donc, c'est un retour sur sa promesse électorale.
Ça me surprend, c'est fou. Merci beaucoup, Patrick Bonin. Tu viens de parler de Greenpeace. Greenpeace qui est un de ceux qui travaillent très fort dans le domaine des OGM pour l'étiquetage, entre autres choses. On a donc le plaisir de s'entretenir avec M. Pascual Gomez de Greenpeace, qui est responsable du dossier OGM en remplacement d'Éric Darrier, qu'on recevait il y a déjà un mois et demi. Monsieur Gomez, vous allez bien?
Oui, bonjour. C'est Sofiane.
Oui. Donc, d'après vous, le débat qui s'est tenu la semaine passée était incomplet. C'était simplement une stratégie. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus?
Ben, écoutez, c'est clair que M. Maxime Arsenault, lorsqu'il était lui-même ministre de l'Agriculture, a eu l'occasion de faire avancer l'étiquetage obligatoire des OGM parce qu'il en avait les pouvoirs. Et on sait très bien que la loi sur les produits alimentaires permet au gouvernement du Québec, sans le fédéral, de mettre en place une politique obligatoire d'étiquetage obligatoire des OGM. Donc, M. Arsenault, dans le temps où il était ministre de l'Agriculture, avait le pouvoir pour faire avancer cette question-là, et il l'a pas fait. Alors, c'est un peu une discussion de sourds, en quelque sorte, comme disait Patrick tantôt, dans le sens que, dans le fond, on utilise l'Assemblée nationale comme une plateforme juste pour faire des chicanes entre partis, pas nécessairement pour faire avancer les dossiers.
Mm-hmm. Dans ce sens-là, est-ce que vous, d'après vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti, j'allais dire, de ce débat-là, mais c'était peut-être pas moins un débat qu'un événement, de cet événement-là, est-ce que vous pouvez tirer des conclusions? Par exemple, est-ce que d'après vous, les parlementaires connaissent, maîtrisent suffisamment le dossier des OGM pour tenir de réels débats éclairés sur ces questions-là?
Ben, écoute, je pense que là-dessus, il y a quand même eu une évolution. C'est-à-dire qu'ils se posent des bonnes questions, ils n'ont pas nécessairement les bonnes réponses. Je crois que on n'est pas si loin, peut-être, d'avoir un étiquetage obligatoire des OGM au Québec, mais ça va prendre de la part du Parti libéral, de la ministre de l'Agriculture et des députés libéraux un certain courage politique qui n'ont pas fait preuve jusqu'à maintenant, pas suffisamment en tout cas à notre goût. Lors du congrès du Parti libéral qui se tenait la fin de semaine passée et dont nous avons tous entendu parler parce que les étudiants, et bien sûr je sais que je m'adresse à beaucoup d'étudiants qui vous écoutent, n'est-ce pas, qui nous écoutent, on en a surtout entendu de ce congrès-là que le gouvernement allait peut-être reculer sur la question des frais de scolarité. Mais à l'intérieur de ce congrès-là, il y a eu aussi une motion qui était encore une fois celle sur l'étiquetage obligatoire des OGM. Et qu'est-ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a repris les termes qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale, donc la motion de M. Maxime Arsenault, amendée par la ministre de l'Agriculture. On a repris ces termes-là au congrès du Parti libéral et on y a ajouté finalement une certaine flexibilité au niveau du temps.
Mais on s'entend que l'étiquetage, c'est pas une solution dans le sens que oui, ça rassure les bonnes gens et ça fait que les gens ont le pouvoir de choisir, mais ce n'est qu'un pas. Parce que ça assure pas du tout la protection ni de l'environnement par la contamination génétique, ni la sécurité des populations qui s'alimentent de ces OGM-là. Donc, d'après vous, est-ce que vous pensez que l'étiquetage permet de faire avancer le débat même sur les OGM?
C'est clair. L'étiquetage fait avancer le débat auprès de la population, permet également aux députés de moins rester sous pression, mais d'autre part, ce qu'il faut dire, c'est que les OGM ne tiennent pas leurs promesses. C'est-à-dire que quand les OGM, les pro-OGM, ont commencé à développer ces produits-là, c'était pour sauver le monde, presque.
Oui, et on s'est bien aperçu, malheureusement, depuis que c'est pas du tout le cas et que ça met plutôt dans le trouble les agriculteurs. Monsieur Gomez, le temps file, on va devoir s'arrêter ici. Donc, Monsieur Gomez est responsable du dossier OGM chez Greenpeace. Je vous remercie beaucoup.
Bonne journée.
À une prochaine.